Bonjour à vous toutes et tous. Je crois que j'ai pas besoin de le répéter, mais c'est chaque fois une très grande joie pour moi que de me trouver parmi vous. L'autre jour, je pensais à votre Église et à son nom. C'est vrai que souvent on dit « Ah, on va à la chapelle de l'Évol ». Mais il y a un autre nom. Il y a la fameuse chapelle de l'Espoir. Et c'est ce nom-là qui a touché mon cœur. Et en pensant à la chapelle de l'Espoir, je pensais à ce verset d'Hébreux 11, 1. Vous le connaissez. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Qu'on espère. L'espoir, l'espérance, ça fait partie des gènes de cette Église. Ça fait partie de vous. Et si on a compris cette chose-là, on peut aller plus loin dans le verset. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas encore. Et ça, c'est la foi. Petite Église, rassemblée ici, Dieu veut vous donner la foi. Afin que cette espérance, afin que ce logo, l'espoir, vous anime, vous habite et vous permette d'aller plus loin. C'est vraiment cet espoir et cette espérance que je mets dans le cœur de chacun d'entre vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Le thème aujourd'hui est particulier. Il se décompose en deux entrées, deux thèmes. Écoute et sois prêt. Petite question. Comment vous êtes-vous levé ce matin? Quelle a été votre première pensée? Votre première priorité? Légitime ou pas? Avec quel état d'esprit avez-vous quitté votre lit? Plusieurs possibilités et plusieurs réalités également. Dans la parole de Dieu, qui pour moi est le fondement de ma vie, nous pouvons trouver des étapes de la vie de personnages qui ont eu des réveils différents et qui ont choisi de vivre cette différence. Tout d'abord, dans le psaume 5 au verset 3, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Quelle assurance dans ce propos! Entends, alors que je ne te vois pas, mais par la foi, je le crois et je l'affirme concrètement. Tu entends ma voix. Plus loin, dans un autre psaume, au psaume 88 au verset 13. Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi. Signe d'humilité et de soumission dans l'assurance que devant l'Éternel, je peux me présenter. Afin de pouvoir se réveiller avec des pensées différentes que celles offertes par les pensées du monde, il est préférable de se coucher avec des pensées de paix. Soient les circonstances. Et là, à nouveau, dans le psaume 4, au verset 8, nous trouvons et nous lisons « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Je ne veux pas parler d'un sommeil difficile, d'un réveil perturbé par les douleurs, par exemple. Même que là, la parole de Dieu nous ouvre à une autre dimension. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, les versets 20 et suivants, nous relate que Paul et Silas, chargés de coups, enchaînés, louaient Dieu. Et Paul nous encourage à persévérer. Je dis bien persévérer. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16, il est écrit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Et l'Assemblée dit « Amen ». Voilà un préambule qui peut nous préparer à entrer dans une autre considération. Dans quel monde vivons-nous? Un monde où tout va très vite, où tout va trop vite. Trop souvent, nous sommes happés par la vitesse de notre monde. Nous sommes au courant des faits divers presque en même temps qu'il ne se passe. La patience ne fait plus partie de notre quotidien. Et je m'interroge sur cette réalité. Qui se cache derrière ce fait de société? Qui influence notre société et nos pensées pour que nous ne prenions plus d'attention à Dieu et que nous prenions plus d'attention à ce qui frappe notre oreille et nos yeux, à ce qui frappe notre être charnel? Dieu ne nous invite-t-il pas à patienter, à nous préparer, à être attentifs et à devenir persévérants? Dans Luc 21, au verset 9, nous lisons « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » Et puis loin, au chapitre 21, les versets 19, « Mais par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Le Satan, c'est-à-dire l'adversaire, est à l'affût de tout ce qui perturbe notre marche chrétienne, cherchant à nous faire trébucher. Alors, avec humilité, j'ose m'approcher de mon Dieu. Et j'ose lui poser cette question. Du plus profond de moi-même, suis-je tout à toi? Où es-tu, Seigneur, dans mon quotidien? Dans quelle direction va mon regard? Devant le silence apparent de Dieu, n'y a-t-il pas déjà une attente de sa part et une réponse de notre part à la question que lui nous pose? Quelle place ai-je dans ta vie? La question est plus pertinente dans ce sens, car l'autre alternative peut nous inciter à avoir déjà des réponses toutes faites, personnelles, de l'autosatisfaction et une bonne conscience. S'il ne répond pas, c'est que je suis en règle avec lui. Mais Dieu a déjà répondu. Et il dit, Écoute, Israël. Écoute, peuple de Neuchâtel. Écoute, frères et sœurs de l'Église de l'Évol. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Toute interprétation personnelle, humaine et arbitraire ne peut mener qu'à un désordre intérieur. Les trois orientations que nous venons de lire convergent vers un même lieu et dans une même direction, Dieu et Dieu seul. Est-ce que nous en sommes vraiment conscients? Ou est-ce que nous disons ces choses-là pour se donner bonne conscience? Je crois réellement que nous avons en nous une aspiration particulière à rechercher la volonté de Dieu. Mon assurance doit être parfaite. Si nous écoutons la voix de Dieu, nous serons prêts. Afin de ne pas perdre de vue et d'oublier cet appel de Dieu, je me suis penché sur un texte qui recentre et accroît notre perception du danger qui guette le croyant. J'aimerais vous lire dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 5, les versets 2 et suivants. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes et de la nuit. Mais j'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe. Et mes doigts la myrrhe répandent sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi. Mais quand il me parlait, où étais-je? Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte? Pour moi, avant tout, il reflète ce qui trop souvent conduit mon quotidien. L'autosuffisance et les fausses priorités. Oui, je dois confesser que je me cache souvent et quelquefois derrière cette parole. Mon cœur est éveillé, donc je peux m'endormir en paix. Ce sont mes sentiments qui prennent le dessus sur cette réalité biblique. Dans Matthieu 24, au verset 42, il est dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Suis-je à ce point aveuglé et sourd que je ne puisse même pas entendre, assoupi que je suis, avec quelle parole d'amour mon Seigneur me parle? Et avec quelle parole il m'appelle? Mon ami, ma colombe, ma parfaite. Pourtant, et je vous crois sincère, il y a peu de temps, juste avant de nous endormir, nous étions éveillés. Un heureux et rayonnant. Comme après une belle soirée de louange, par exemple. Mais que s'est-il passé dans nos sentiments pour que cette sincérité et cette relation s'étiolent au point de nous endormir? Le texte volontairement ne nous donne pas de réponse. Mais les paroles de l'époux, redoublant d'amour pour nous, ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes d'eau et de la nuit. Comment dois-je interpréter ces paroles? Sont-elles reçues comme le psalmiste? Lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Vous trouvez ça dans le psaume 6, les versets 3 et suivants. Hélas, si les pensées et les paroles du Seigneur ne changent pas, si son amour reste inaltérable, notre attitude ne nous trompe souvent pas. Effectivement, alors que nous entendons l'appel de Dieu et que nous ouvrons les yeux, notre moi prend le dessus au point de nous accrocher à des futilités devenant plus importantes que la réalité. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Combien de fois, chers frères et sœurs, n'avons-nous pas vécu cette réalité? Notre personne passe avant Dieu et nos excuses nous semblent acceptables, rationnelles et souvent légitimes. Suis-je tout à toi? Où es-tu, Seigneur, dans mon quotidien? Dans quelle direction va mon regard ce matin? Il peut s'écouler quelque temps avant que nous réalisions qu'il est temps de se lever. Tel que nous sommes, sans rien à nous, simple et vrai devant l'Éternel. Et c'est avec ces larmes, cette désolation, peut-être un goût amer, que nous actionnons le verrou de notre cœur. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et de mes mains a découlé la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. Sortis de notre torpeur, réveillés et bien réveillés, nous réalisons que nous avons tardé à ouvrir. Trop occupés par nous-mêmes. Même si nous sommes sincères dans nos excuses, trop tard. Notre retour à de bons sentiments et notre amour sincère à une volonté vraie nous pousse à ouvrir. Mais j'ai ouvert à mon bien-aimé. Mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Comment ne pas être troublé en lisant ces paroles? Dieu m'aurait-il abandonné? Serait-il réellement parti? Je te cherche, Seigneur. Je t'appelle. Mais réponds-moi. Ce matin, devant ce texte et le partage que nous venons de vivre, qu'en est-il de nous? Eh bien, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour nous le sujet d'une grande joie, c'est que l'époux, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, son Fils unique, a, par sa mort et sa résurrection, pris place à la droite céleste de Dieu. Et se trouvant derrière la porte, il frappe à nouveau. Apocalypse 3:20 nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je m'assiérai à sa table et je mangerai avec lui. » Il est grand temps de se réveiller, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, d'être attentif, car le Seigneur revient. Nous l'avons partagé tout à l'heure. Sa parole est là pour nous inviter à résister, à nous préparer, à rechercher et à fortifier notre dépendance du Seigneur, à bannir l'assoupissement, l'habitude et la nonchalance. C'est notre seule responsabilité. Elle ne peut pas être dictée par un élan d'enthousiasme, un élan du cœur ou une bonne volonté, mais seule l'action du Saint-Esprit en nous nous donnera la faculté de résister aux tentations, si grandes ou si petites soient-elles, et de nous détourner de la voie que Dieu, de nous détourner de la voie que l'ennemi essaye de nous mettre devant nous, et de nous attacher avec fidélité à la voie que Dieu ouvre devant nous. Le Seigneur n'a-t-il pas dit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et plus loin, Jésus ajoutera pour nous aujourd'hui « Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alors, frères et sœurs, devant cette réalité trop souvent renouvelée par notre tiédeur et notre manque de persévérance, revenons à cette obéissance. Une écoute et une mise en pratique de notre désir à tous de permettre à Dieu d'avoir toujours plus de place dans notre vie, c'est la seule solution. C'est quand même extraordinaire de voir que Dieu ne met pas devant nous une panoplie de solutions. Ce que, soyons sincères avec nous-mêmes, le monde aujourd'hui nous offre. Combien de solutions sont à notre disposition pour superficiellement répondre partiellement à ce vide qui nous habite, alors que Dieu, lui, a un seul chemin, Jésus-Christ. Et ce chemin nous ouvre à une réalité. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à mon retour. J'aimerais terminer ce partage par la lecture d'un texte qui peut nous donner de l'énergie dans la vision et dans la vision surtout de son exaucement. Marc 10, 49. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle. Et souvent, nous sommes encore aveugles. et ils lui dirent avec foi, et je reviens au préambule par rapport à cette petite assemblée, et ils dirent avec foi, prends courage, lève-toi, le Seigneur t'appelle. Amen. Aujourd'hui, Jésus s'est arrêté dans cette assemblée. Il s'est arrêté au milieu de nous. Il prend le temps de nous parler. Il prend le temps de vouloir nous toucher. Il prend le temps de s'arrêter derrière notre porte. Avec larmes, mais avec une assurance. C'est qu'il a mis en nous un cœur nouveau. C'est qu'il a mis en nous un esprit nouveau. Et c'est par cet esprit, comme il l'a été lu tout à l'heure, que nous pouvons dire « Abba, Père ». Il n'y a pas d'autre discours. Nous pouvons raconter un tas d'histoires, mais il n'y a pas d'autre discours qui ne nous permette de nous rendre devant le Père en Jésus-Christ. Levons-nous, frères et sœurs. Hâtons le retour du Seigneur par notre vie de prière, par notre vie d'engagement, par notre vie d'amour fraternel les uns avec les autres. Et j'aimerais faire une expérience avec vous. Nous avons deux groupes, mais ce n'est pas grave. Vous allez vous donner la main les uns les autres. Maintenant, simplement vous donner la main. Et vous regardant à droite ou à gauche, dire ce que les disciples ont dit. Prends courage. Lève-toi, le Seigneur t'appelle. Prends courage, lève-toi, le Seigneur t'appelle. Je vous invite à la prière. Seigneur, je te remercie. C'est vrai, tu es présent au milieu de nous. Seigneur, merci parce que tu réponds aux besoins de nos cœurs. Tu réponds, Seigneur, à cette aspiration que Pierre a eue et attendait au bord de l'eau lorsqu'on lui a dit « C'est le Seigneur ». Il a tout lâché et il a couru. Seigneur, nous te reconnaissons au milieu de nous. Notre cœur bat en nous. Ton cœur bat dans notre cœur et dans notre vie. Nous voulons ce matin tout à nouveau te dire « Oui, Seigneur ». Tels que nous sommes, nous venons à toi. Merci, mon Dieu. Merci pour la richesse de ta parole. Merci pour la richesse des frères et sœurs. Merci pour l'unité de ton esprit aujourd'hui encore. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Parmi vous, des personnes ont ce désir profond de peut-être renouveler un engagement avec le Seigneur, ou peut-être répondre, que le Seigneur réponde à une question. Je suis sûr que nous sommes là à disposition pour pouvoir prier pour vous. Le reste, c'est le Seigneur qui le fait. Dernièrement, je parlais avec un jeune qui voulait tout fracasser. Il aime le Seigneur, mais avec fougue, mais il voulait tout fracasser. Et je me suis souvenu de ce verset qui dit, c'est Paul qui parle à nouveau, et qui dit, l'un a semé, l'autre a planté, l'autre a arrosé, l'autre a désherbé, mais celui qui fait pousser, c'est Dieu. En aucune manière, par notre intelligence, par notre force de caractère, nous n'arriverons à faire pousser. La seule chose que nous arriverons à faire, c'est à déraciner. Alors, Enracinons-nous dans cette parole de Dieu. Enracinons-nous dans cet amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et laissons-nous arroser par la pluie du Saint-Esprit, qu'il descende maintenant sur nous. Amen.